Bonsoir Sylvie.
Oui, bonjour. Bonsoir.
Bonsoir.
Bon, j'ai eu l'agréable surprise d'être appelée assez vite, mais voilà. Donc, bon, j'étais en route dans la campagne, donc je me suis arrêtée.
Et ne bougez plus parce que si vous êtes dans la campagne, le téléphone risque d'être un peu en difficulté.
Effectivement.
Alors, racontez-moi, avez-vous, Sylvie?
Voilà, j'étais un peu touchée aussi par la détresse de la personne qui intervenait juste avant, donc ça m'a un peu troublée.
Je comprends.
Et j'avoue que je ne sais pas bien par où commencer. Alors, je vais essayer de mettre les choses en ordre. Voilà, donc il s'agit de mon fils qui est adulte, hein, qui a 40 ans, donc voilà. Et avec qui je suis dans une impasse totale, quoi. Je ne sais plus comment faire pour établir le dialogue, la vérité.
C'est votre fils unique ?
C'est mon fils unique, oui.
Que vous avez eu toute jeune, dites-moi, puisque je vois que vous avez 58 ans.
Et oui, effectivement, j'ai eu tout jeune, voilà. Alors d'où justement peut-être aussi cette incompréhension qui s'est installée au fur et à mesure des années. Je crois que c'est ce qui me reproche un peu aussi, indirectement.
Alors, quel est le point d'achoppement? Où est-ce que les choses sont compliquées? Alors, entre vous et lui?
Voilà, jusqu'alors, on a... Bon, c'est forcément mon point de vue, hein, donc je peux qualifier notre relation depuis plus jeune de fusionnelle, en tout cas de très proche, très complice. Et puis, une vie un peu compliquée, hein, de mon côté, effectivement. Et puis, mais toujours un dialogue constant, hein, même sur les problèmes, voilà.
Et alors,
toujours dialogué.
Et votre vie compliquée, vous parlez amoureusement ou sur d'autres sujets?
Non, amoureusement, enfin, mon histoire familiale et puis aussi sa venue au monde, puisque j'ai été séparée, j'ai eu un déni de grossesse, enfin, beaucoup de choses cumulées qui a, je crois, inconsciemment installé de l'insécurité chez lui, quoi.
D'accord.
Quelque chose de... Voilà. Mais j'ai envie de dire que grâce au dialogue, etc., et cette complicité, les choses se sont plutôt mieux passées, même. Enfin, passées au mieux, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Et à l'âge de 17 ans, il a rencontré une personne avec qui il est marié maintenant. Mmh. Et il a j'ai deux petits-enfants, hein, de 11 et 12 ans. Et là, au fur et à mesure des années, il est devenu un étranger. Je ne sais pas comment dire autrement. Mmh. Je ne l'ai plus reconnu, ni dans ses valeurs, ni dans la façon de se comporter avec moi, je ne veux pas faire le schéma classique de la belle-mère, la belle-fille, enfin voilà, bon, mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi un point là où je ne sais pas, à l'âge de 19 ans, il m'a annoncé que ma belle-fille ne m'aimait pas, voilà.
D'accord.
Bon, les choses ont été dites, voilà. On a toujours été intelligente et on a composé, mais effectivement, au fond, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais voilà. Bon. Plus distant, il avait des élans très naturels et puis s'arrêtait, voilà. On dirait qu'il était freiné par, à chaque fois, une dualité permanente. Le premier jour, si on passait un week-end ensemble, ça se passait très bien. Le lendemain, c'était complètement l'inverse.
Mm-hmm.
Et puis, s'est installé carrément, enfin, une violence, un mépris, quelque chose de très désagréable. Là, pour le coup, des reproches, du jugement, permanence.
Sur des choses du quotidien ou sur des choses passées?
Sur des choses banales, du quotidien.
D'accord.
Et pour en arriver à aujourd'hui, qui m'écrivent une lettre, on a passé un Noël terrible. Et donc après ça, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Dis-moi. Alors pendant le premier confinement, il m'appelait, il me confiait. Alors il se fait suivre hein, de son côté, jusqu'à me dire que sa psy me trouvait formidable. Voilà, enfin des choses très très bizarres. Me dire le chantage au divorce de sa femme par rapport à notre relation, enfin, alors qu'on ne se voit pas, hein, on est dans des villes complètement différentes, des pays même différents. Donc ça, il n'y a pas du tout d'invasion de ma part. Mais je suis omniprésente, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, ça, voilà, que j'étais. Et donc là, j'ai reçu une lettre et là, je suis complètement dévastée.
Est-ce qu'elle dit quoi, cette lettre ?
Avec un récit sur notre relation qui n'a jamais été bonne. On n'a jamais communiqué ensemble, il s'est senti très seul. Alors, je respecte son ressenti, hein. Mais une lettre très confuse, enfin très... et en disant que, voilà, tu sais maintenant, on n'a jamais été proches... je ne te comprends pas, on est dans deux mondes différents. Enfin, quelque chose de complètement... D'ailleurs, je l'ai montré à un psychiatre, cette lettre, et jamais il ne cite de fait, quoi. Et si on lit cette lettre, on a l'impression qu'il s'est passé les plus grands drames dans sa vie. Voilà, comme si il y avait des choses cachées, que j'étais vraiment un monstre. Voilà. Et donc, je suis... alors, après, en me disant que... maintenant, ça y est, il avait compris, il n'allait plus me percevoir comme une personne dont il aurait envie que je sois. Enfin, c'est très mal dit, mais pardon, c'est un peu ça. Et qu'il avait compris, quoi, qu'il voulait que je sois une personne autre que ce que je suis. Et donc, il faisait le deuil de ça. Et que, alors avec 1000 règles, hein, on peut se voir une heure, pas plus. Enfin, tout est sous contrôle. Il est très, très angoissé. Donc, tout est l'heure, les listes, ça devient quelque chose de complètement presque névrosé. Enfin, voilà, alors que je respecte scrupuleusement, vraiment. Mais même en le respectant scrupuleusement, il arrive à angoisser pour quelque chose d'autre. Enfin, voilà. Donc, je suis catastrophée. Je ne vois pas mes petits-enfants. Le dialogue est compliqué. Moi, je ne sais plus là, comment faire. J'ai décidé de couper les ponts et de le laisser un peu réfléchir. Décanter parce que j'ai toujours été à l'écoute, j'ai toujours répondu, je l'ai toujours vraiment écouté, reconnu que peut-être, effectivement, je lui ai laissé une certaine sorte d'angoisse, peut-être, due à plein de choses. Mais voilà, je suis un peu perdue.
Alors,
j'ai essayé de vous brosser un peu
le tableau de la situation, bien sûr.
Voilà.
Alors, est-ce que ça vous ennuie, Sylvie, de m'expliquer un petit peu le début de. Justement de votre vie à tous les deux, à savoir cette grossesse quand vous êtes une toute jeune femme, ce déni de grossesse, et vous avez dit avoir été séparée, est-ce que c'était de votre fait ou par quelqu'un d'autre qui avait estimé que vous n'étiez pas en capacité de vous occuper de votre bébé dans un premier temps, est-ce qu'on peut en parler quelques minutes ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est une grossesse accidentelle et malheureusement, j'ai fait un déni de grossesse, donc
C'est-à-dire que vous n'êtes pas rendu compte que vous étiez enceinte ?
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. Donc, je l'ai su à 3 mois de la naissance.
D'accord.
Donc, comme c'était une relation isolée comme ça, j'ai recherché le père, mais qui était parti entre-temps à l'étranger. Donc, j'ai donc accouché seule. Donc, entre-temps... c'est vrai que j'ai vécu une grossesse extrêmement angoissante. J'ai été reniée par ma famille. Je suis allée en foyer. Enfin, c'était très compliqué.
Parce que même la famille ne s'est pas rendue compte de votre grossesse.
Non, même la famille.
D'accord.
Voilà.
Et quand vous le découvrez à quelle occasion ? C'est un rendez-vous banal chez le gynéco ? C'est un symptôme particulier ?
Pas du tout. Non, c'est très, très curieux, quoi. Je me suis évanouie tout simplement en visitant un centre équestre. Et il s'avère que la personne qui tenait ce centre équestre était, comme on dit, un rebouteux. Mm-hmm. Et quand je me suis réveillée, il m'a annoncé que j'étais enceinte, que ce serait un très beau garçon. Et que... Donc imaginez le choc. Voilà, je n'étais pas du tout prête à entendre ça. Voilà. Donc voilà.
Et donc, vous êtes à ce moment-là, votre famille, c'est à ce moment-là, elle découvre que vous êtes enceinte, et donc on vous rejette.
On me rejette, oui.
On vous met dans un foyer. Vous allez
Alors, c'est moi qui cherche un logement, enfin quelque chose, et voilà, je vais dans un foyer, effectivement.
D'accord. À ce moment-là, vous mettez au monde votre bébé, et que se passe-t-il au moment de sa venue au monde ? D'ailleurs, l'accouchement se passe-t-il bien ?
Oui, tout se passe bien. Donc, il y a effectivement le fait de pouvoir, à l'époque, ça s'appelait la pouponnière, de pouvoir laisser son enfant. Et on avait 3 mois pour décider de ce qu'on faisait de notre enfant, si on souhaitait le garder ou pas, ou le placer. Pour moi, ça a été évident que je le gardais. Il n'y a pas eu de doute de ce côté-là.
Donc, vous avez pris tranquillement ces 3 mois, puisque votre grossesse, dans votre esprit, vous n'a duré que 3 mois. Donc, vous avez pris le temps de ces 3 autres mois pour dire que vous le gardiez, ou ça s'est fait plus rapidement ?
Un peu plus rapidement, oui.
Et vous aviez la compétence, puisque vous étiez tout seul, sans famille, dans un foyer, la compétence ?
Pas du tout. Je l'ai pris pour comme un défi, un challenge. J'ai dit que je m'en sortirais et j'ai tout fait pour m'en sortir. Et d'ailleurs, ça s'est bien passé après, puisque j'ai trouvé les moyens d'avoir un logement et de l'élever correctement. Et j'ai trouvé un travail. Enfin, tout s'est bien enchaîné. Simplement, un moment de grossesse très fortement angoissant.
Bien sûr, bien sûr. Et vous n'avez donc pas retrouvé le papa ?
Alors non, mais on l'a retrouvé par la suite. Mon fils a rencontré son père. Il y a quelques années, avant qu'il se marie, et malheureusement pour lui, deuxième fait un peu triste, et je pense qu'il m'en veut aussi, même si ça n'est pas de mon fait, ils se sont très bien retrouvés, entendus, mais la femme de celui-ci n'a pas souhaité qu'il maintienne la relation.
D'accord.
Donc ça a été un grand haut et un grand bas pour lui.
D'accord, très bien, ok. Et donc, vous allez donc vous occuper de ce bébé. Vos propres parents ne reviendront plus vers vous, ou est-ce qu'ils changeront un peu d'avis par la suite ?
C'est très étrange. Ici, ils se comportent en grands-parents, comme si de rien n'était, comme si le fait de m'avoir rejeté n'avait pas eu lieu, quoi. Ils viennent me voir, je vais les voir, je maintiens le lien...
Et on n'a jamais plus renommé la situation de rupture qu'ils ont imposée.
Du tout, du tout.
D'accord. Donc vous allez vivre toute seule avec votre bébé et vous allez l'élever seule. Vous n'allez pas rencontrer d'autres hommes dans votre vie.
Si, j'ai rencontré une personne quand mon fils avait à peu près 3-4 ans, avec qui je suis restée jusqu'à l'âge de ses 8 ou 9 ans. Et après, ensuite, je me suis séparée. Voilà.
Et qui a entretenu une relation de qualité avec votre fils ?
Alors oui et non, mais parce que bon, c'était un petit peu compliqué, il était un peu léger dans la vie et mon fils a souhaité rompre les relations quand il a eu 18 ans avec lui parce qu'il ne tenait pas ses paroles, enfin bon, c'était quelqu'un de pas très fiable finalement. Donc la figure du père, effectivement, on a pris un coup entre guillemets. Enfin, c'était pas une référence.
Bien sûr. Ensuite, il va plus y avoir d'accident particulier dans votre vie tous les deux, dans votre relation l'un avec l'autre. Votre fils va s'épanouir tranquillement et normalement.
Normalement, il a fait de belles études, il a une très belle situation. Il y a eu l'adolescence où là. Il m'a demandé un jour de partir avec lui en voiture, enfin, comme on faisait quand on part en vacances, pour m'interroger sur ma vie, qu'il a enregistré. Enfin, le dialogue était toujours constamment, même s'il y avait forcément des choses voilà, qui n'allaient pas, on n'est pas toujours d'accord, mais toujours voilà, de façon frontale, transparente. Sans...
Et vous interrogez sur votre ville, vous voulez savoir quoi en particulier ? Qu'est-ce qui était, quel était l'axe de sa curiosité ?
Tout, il m'a fait parler sur ma vie en général, mais je lui ai redit aussi la relation avec son père géniteur qui était une belle histoire. C'était pas du tout un drame, je l'ai rassuré là-dessus. Après, les circonstances de la vie ont fait qu'on, voilà, qu'on a été séparés. Je lui ai redit tout ça. Je n'ai pas, par contre, nommé les choses en ce qui concernait mes parents.
D'accord.
Non, parce que je voulais qu'il entretienne de bonnes relations avec la famille, que ce soit la famille du côté où il est très proche du côté de l'ami avec lequel j'ai vécu. Il est toujours lié à cette famille. Voilà, on a vraiment recréé un cocon familial sécurisant pour lui des deux côtés, quoi. Mmh. Et je n'ai pas nommé les choses dramatiques, quoi.
Oui. D'accord. Bien, et donc quand il rencontre son épouse, quel type de femme est-ce ? Alors tout ça, c'est bien sûr de votre point de vue, mais quel type de femme ?
Ben, c'est délicat parce que... Alors, je n'ai vraiment rien contre les religions, hein, vraiment, mais bon, son papa est diacre. Hein. Mm-hmm. Et ce qui m'avait choquée, c'est que le jour du mariage, voilà, les discours, c'était « on a adopté Nicolas », enfin, pardon, mon fils, on l'a adopté. Et pour moi, il est... Et voilà, et en fait, c'est une personne qui n'a pas eu de projet scolaire ni professionnel dans un premier temps. Son seul but, c'était de se marier avec mon fils et d'avoir des enfants. C'est vraiment depuis l'âge de 17 ans. Donc, quand il a fait son parcours professionnel de haute étude, bon, il est aussi journaliste, voilà, il est parti à l'étranger, elle l'a suivi partout à l'étranger, enfin, voilà. Donc, une femme très présente, quoi, enfin, quelqu'un de très...
Qui n'a pas de vie, que de vie professionnelle, personnelle.
Voilà, pas d'objectif, pas de projet, à part le fait de construire un foyer avec mon fils et de le suivre et de construire, voilà. Donc... Voilà, donc c'était un peu exclusif, quoi.
Et ils vont avoir leur premier enfant à quel moment par rapport à leur rencontre ?
Un peu plus tard, je sais qu'elle voulait beaucoup, beaucoup d'enfants. Bon, elle restait à deux, mais elle en voulait cinq ou six. Mm-hmm. Au départ, c'était vraiment le projet. Donc, ma petite fille a 13 ans. Excusez-moi, j'essaie de calculer. Ça faisait, je crois, enfin non, il a poursuivi ses études. Hein, il est allé jusqu'au bout de ses études, c'est son premier emploi.
27 ans, quoi, grosso modo.
Voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. À peu près.
Bien. Alors, c'est évidemment que cette histoire est d'une grande tristesse parce que il y a un fils qui essaie de s'exprimer, qui essaie de mettre des distances, un holà, pour se faire entendre et respecter, mais dans la réalité, me semble être encore et toujours le jouet d'un contexte extérieur, puisque si on considère que il a subi l'absence d'un père, il a subi ces deux mois ou trois mois, je ne sais pas, de séparation avec sa maman quand il naît, puis il va aussi connaître une distance aussi avec les grands-parents, même si ils vont finir par revenir. La présence d'un entre guillemets beau-père et puis une redisparition du beau-père. Et puis ensuite, c'est une femme qui va être. Il y a aussi son père qu'il va retrouver puis qu'il va perdre à nouveau dans le même contexte d'ailleurs que ce qu'il subit lui-même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, lui, il est sous l'autorité d'une certaine manière de sa femme, qui lui fait le chantage de divorcer si d'aventure il entretenait une relation avec vous. Et lui-même a perdu, après avoir retrouvé son père, a perdu son père parce que l'épouse de son père lui a fait le même type de chantage.
Effectivement, voilà, donc, malédiction. Excusez-moi, je reviens juste. Je n'ai pas été séparée de mon enfant à la naissance du tout.
Ah d'accord, je croyais que c'était la
pouponnière. Il y avait juste cette réflexion, je pense. Enfin, c'était plutôt psychologique en disant, voilà, est-ce que je le laisse ou pas. Mais il n'y a eu aucune séparation. Hein,
d'accord, vraiment. D'accord, pardon. Donc déjà, vous voyez, c'est intéressant parce que votre fils, pour se mettre dans une situation et accepter la situation après avoir eu une relation de qualité avec sa maman. Alors, toutes les relations avec nos mamans, même de qualité, sont toujours avec des accros, bien évidemment, parce que c'est compliqué, les relations, surtout quand on est tout seul avec sa mère. Il faut savoir que un enfant est dans un plaisir de fusion et dans une angoisse de cette fusion, puisque le rôle paternel est de séparer l'enfant de la mère pour que justement il n'y ait pas de confusion, de mélange des genres, ce qui permet à l'enfant de s'émanciper, de grandir, ce qui n'a pas existé là, puisque vous avez été tous les deux un soutien l'un pour l'autre, affectif, j'entends, dans cette relation plutôt de type fusionnel. Donc c'est sûr que déjà, dans un contexte comme ça, ce n'est pas rare que les enfants ruent un peu dans les brancards, ou tout d'un coup sont assez cruels, alors qu'on les a aimés profondément, mais tout simplement parce que pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir tendre vers sa vie d'homme, qui plus est vers sa sexualité, ils ont absolument besoin de ne pas être trop proches de leur mère, pour ne pas risquer d'être amoureux d'elle, en quelque sorte, si je veux dire les choses un petit peu rapidement. Donc ça, c'est assez classique, et c'est pas une punition de la mère, c'est une sauvegarde pour pouvoir développer son relationnel à lui-même et à son projet d'homme. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que quand même ce jeune homme, enfin cet homme maintenant, est quand même beaucoup en recherche, ce qui est très fréquent aussi, quant à ce papa, et qui du coup, à défaut d'être en relation avec lui, eh bien, reproduit des choses. Donc sa femme, qui a le pouvoir d'interdire la relation avec sa mère, comme la femme de son père a interdit la relation avec son père. Et puis, il est à l'étranger, me dites-vous, comme ce papa qui était parti à l'étranger alors que vous étiez enceinte et que vous avez accouché toute seule. Donc, on voit qu'il y a une sorte de répétition, comme s'il était toujours dans la quête de ce père. Et ce qui est très douloureux, sans doute, et toujours douloureux quand je l'entends chez d'autres, c'est que les mamans qui sont très présentes sont celles qui prennent de plein fouet l'agressivité et la colère, alors que l'enfant continue à chercher l'absent, qui devrait être l'origine de la colère.
Mmh, tout à fait, oui. Je comprends ça.
Alors, si vous le permettez un instant, on fait une petite pause, Sylvie, et je reprends.
Oui, d'accord.
La libre antenne d'Europe 1, Catherine Blanc, accompagne vos nuits.
Sylvie, vous êtes toujours là?
Oui.
Alors, je voulais poursuivons donc ce qu'on était en train de se dire. Je voulais revenir notamment sur quant à votre fils qui est en fait depuis toujours dans cette recherche de son papa d'une certaine manière. Alors, il est dans le confort de sa relation avec sa maman, mais dans la recherche de son papa. Et évidemment, quand il va se marier et que son beau-père va dire « nous avons adopté donc votre fils », j'imagine évidemment et la violence que cela vous fait. Comme si cet enfant était à adopter, puisque ça a fait partie de votre réflexion de la toute jeune femme un peu prise de court, parce que sa grossesse, elle n'a pas eu le temps de se l'approprier pleinement. Et donc comme s'il laissait penser que vous êtes que votre fils était à adopter ou que vous l'auriez souhaité, alors qu'il n'en est rien. Et puis lui, il a tellement besoin d'un papa, de toute évidence, hein, dans ce que vous me dites, que évidemment cette façon de le faire rentrer dans la communauté qui plus est religieuse, donc avec cette espèce de grande famille proposée et d'adoption nommée, évidemment que c'est et une violence pour vous et certainement ça vient répondre à un besoin très fort pour lui à ce moment-là.
Oui, il me dit même que sa femme lui a sauvé la vie. C'est devenu des propos, enfin voilà, complètement démesurés, et voilà. Donc.
Oui, parce qu'en fait, ce que vous me dites de sa femme, c'est qu'elle est fondamentalement très dépendante de lui et que sa seule réalisation, finalement, c'est d'être, puisqu'elle avait l'intention d'avoir beaucoup d'enfants, sa réalisation, c'est d'être mère. Donc, c'est comme si elle, sa réalisation, sa fonction était d'être mère au sens majeur du terme, y compris une bonne mère pour lui. Donc vous devenez une mauvaise mère.
Tout à fait. Mais j'ai vraiment le sentiment, alors c'est vraiment avec tout le raisonnement que je peux avoir à l'âge que j'ai, mais de prendre ma place. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'il y a eu plein de circonstances. Par exemple, je ne pouvais pas évoquer des choses dans des conversations banales quand il était petit. Voilà, il faisait ceci ou il a marché à tel âge. Et le lendemain, mon fils me demandait « Maman, est-ce que tu peux éviter de parler de situations qu'elle n'a pas connues ?» Parce que ça la met mal à l'aise. Donc, vous voyez les proportions que ça prend. Enfin,
et absolument, il y a quelque chose d'assez fou dans cette façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas, c'est comme si vous étiez son ex en quelque sorte, et qu'elle ne veut pas entendre qu'il a pu avoir une ex. Or, vous n'êtes pas une ex, vous êtes sa mère.
Ben non,
et,
oui.
Et en fait, effectivement, elle joue le rôle de la bonne mère et elle met en évidence la mauvaise mère. Et comme évidemment tout enfant a des récriminations très légitimes et puis à la fois très subjectives concernant leur maman, eh bien, dans cette situation, vous vous retrouvez étiquetée mauvaise mère et lui en besoin et en recherche de la sécurité d'une famille, en recherche d'un père ou donc par le biais de justement de ce mariage qui lui offre une famille. Eh bien, il est en crainte de créer un lien de fusion avec vous et donc avec tout ce que ça représente symboliquement d'idées oedipiennes en quelque sorte. Eh bien, il va dans le sens et sous l'autorité et l'obéissance d'une mère qui sera une mère définitivement bonne, qui ne pense qu'à lui, qui n'est tournée que sur lui, qui est fusionnelle avec lui, qui le suit partout, qui se réalise au travers de lui, elle le sauve, il la sauve, comme s'il réparait l'idée de la fragilité de la relation que fut la sienne avec son père, évidemment, et puis peut-être dans votre jeunesse de maman vis-à-vis de lui, parce qu'il a pu le vivre manquant de l'autre homme, il a pu avoir le sentiment que vous représentiez ce manque vous-même, en quelque sorte.
Ah, tout à fait. De toute façon, j'ai bien conscience que je lui ai inculqué une sorte d'insécurité, une fragilité, bien sûr, que j'ai eue par la force des choses.
Hein. Oui, par
même
votre
si
jeunesse.
Quelque part ailleurs, je suis forte parce que j'ai relevé des défis, voilà, mais cette fragilité-là, forcément, hein, je la reconnais complètement.
Mais vous savez, de toute façon, la compréhension que nous avons de notre histoire, les uns et les autres, est toujours une écriture sur l'écriture. C'est-à-dire, on réécrit l'histoire du point de vue de notre émotion, du point de vue de nos colères, de nos curiosités, de nos besoins. Et ce n'est pas le reflet absolu de la réalité, et c'est encore moins la compréhension que nous pouvons avoir de ce qui s'est joué pour notre maman. Évidemment que c'est un peu en décalé avec votre réalité. Alors, je voudrais maintenant en venir sur ce, parce que là, on a un peu posé les choses, mais qu'agir, donc vous proposiez de prendre du recul, d'une certaine manière le quitter, alors que vous n'êtes de toute façon pas dans le même pays l'un et l'autre. Vous avez reçu ce courrier et votre proposition, c'est de le laisser pour ne pas être intrusive. Moi, il me semble qu'un courrier peut faire un courrier en retour, plein de respect, pas d'intrusion, mais aussi de proposer aussi votre lecture. Il ne suffit pas simplement qu'il assène une lecture de la situation, qui d'ailleurs est peut-être très téléguidée par une épouse, mais avec des mots tendres, sans être des mots amoureux, parce que évidemment, il n'est pas question de vous mettre à votre tour sur le même créneau que son épouse, mais pouvoir dire ce que vous comprenez ou ce qu'il vous semble être à l'ordre du jour dans ce qu'il est en train de dire, mais qui ne correspond pas complètement à la réalité de votre ou à votre ressenti, lui permettant, quand il le jugera bon, de venir ou de vous parler quand il le souhaitera, puisque vous l'aimez, il l'aimerait toujours, puisque vous êtes sa maman. Donc, en substance, c'est pouvoir lui dire: Je crois que, fais attention, je crois que tu rejoues des choses, que je comprends que tu puisses les rejouer d'ailleurs, mais tu rejoues des choses, me semble-t-il, liées à l'absence que tu as pu ressentir très douloureuse d'un papa, voilà, ce qu'on se disait aussi d'un papa qui n'a pas pu assumer sa paternité, même tardivement, parce que téléguidé par une épouse, et qu'il fasse attention de ne pas, de même qu'il a perdu un papa, de ne pas perdre son lien avec sa maman, même si vous comprenez que vous n'avez qu'un rôle de maman, et quand je dis qu'un, ce n'est pas au sens du dénigrement, hein, mais que vous avez un rôle de maman et que vous comprenez parfaitement qu'il ait besoin d'une relation avec une épouse, avec elle, qu'ils aient une famille, et que ça, ce sont des valeurs sur lesquelles vous n'avez pas à intervenir, mais que ce qui vous inquiète, est, indépendamment de du manque qu'il pourrait représenter pour vous, c'est que ce qui vous inquiète, c'est qu'il risque de se priver de quelqu'un dont il a fondamentalement besoin en termes affectifs. Ça ne veut pas dire dans le vécu de tous les jours, mais savoir qu'on a une maman et que cette maman nous aime, tout simplement.
Et donc, alors, dans sa lettre, pardon, je vous écoute attentivement, dans sa lettre, il dit bien qu'il sait que je l'aime, donc, et que, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que je dois me plier à ses règles. C'est une heure, il est très autoritaire dans la façon de conduire la relation, quoi. Et ça, moi, je n'en peux plus parce que j'ai été humiliée un bon nombre de fois dans plusieurs situations et que ça, je ne peux plus, quoi, parce que je n'ai pas dit stop à temps et je ne suis plus prête. Donc, c'est vrai que je lui avais fait 2-3 mots en disant « bon, je suis surprise ». Voilà, de cette lettre et un peu même choquée. Et je lui ai juste posé cette interrogation, comment continuer une relation entre nous et je mets une mère impuissante, quoi. Enfin, j'ai signé, voilà, que j'étais impuissante, que je n'arrivais pas à faire face à ça.
Je crois que vous avez raison. La relation, une relation par définition, c'est la rencontre de deux libertés, certes qui n'empiètent pas sur la liberté de l'autre, mais de deux libertés. Sinon, vous êtes un objet et vous n'êtes pas un sujet. Donc, c'est pouvoir dire, tu as raison, je t'aime. Mais aimer quelqu'un, c'est pas lui laisser faire n'importe quoi et c'est pas le laisser réduire sa maman à un état d'objet. Que tu ne veuilles pas me parler, c'est ta liberté. Que tu puisses pas me parler à 11h, mais que tu puisses me parler à minuit, c'est ta liberté. Mais il y a en face la liberté de ta maman de peut-être t'appeler à 11h et tu ne répondras pas, et de ne pas pouvoir répondre à minuit, non pas par vengeance, simplement parce qu'elle aussi, elle a une vie, elle a un rythme qui est à respecter aussi fortement. Et dire, fais attention dans ces façons de fonctionner, tu me prives certes, mais tu te prives. Et vérifie que c'est toi qui... Non, il ne faut peut-être pas rentrer de ce côté-là, mais en tout cas, lui indiquer que dans cette façon extrêmement... ordonnée, un peu obsessionnelle ou tyrannique, se joue quelque chose qui lui fait du mal avant tout, mais fait bien sûr du mal à la relation, mais lui fait du mal aussi. Et vous avez raison.
Le but de mon appel, c'est aussi, je le sens malheureux, je ne le sens pas heureux, et ça me dévaste, parce qu'il serait pleinement heureux, je prendrais les choses beaucoup plus à distance. Mais je le sens, mais tellement mal, quoi, tellement névrosé. Enfin, je reconnais plus, quoi. Voilà, ça me fait mal de le savoir mal aussi.
J'ai bien
conscience qu'il est malheureux. Hein. Je ne dis pas, il est tyrannique parce qu'il est malheureux. Ça,
bien
c'est sûr,
sûr. Bien sûr.
C'est sûr.
Et c'est pouvoir lui dire, effectivement, vous avez raison. Je suis tellement, tellement, tellement triste de te sentir à ce point. Fragilisé et malheureux pour avoir une relation comme ça, tendue, rigide, inquiète en permanence, accusatrice. Le fait est que tu dis une chose qui est très juste, c'est que je t'aime et sache que je suis là si tu veux bien de mon aide. Je crois qu'il vous faut prendre une position de maman, pas en rivalité avec son épouse, en disant votre inquiétude. Pas nécessairement que vous en êtes vous dévasté, parce que le but, c'est pas que le que l'autre ait un pouvoir de vous faire du mal par le mal qu'il se fait lui-même, mais que ça vous inquiète considérablement, que vous êtes là pour l'aider, que vous êtes là peut-être pour échanger quand il le sentira, il le jugera bon, que vous espérez que ça ne sera pas dans 107 ans, parce que le temps file, le temps passe, et après on n'a plus que ses larmes pour pleurer pour tout ce qu'on a loupé en fait.
Mais quand je lui dis ça, le temps passe, ou vraiment trois mots, ça le met dans un état épouvantable. Voilà, je lui mets le temps passe dans des petits mots avant qu'on se faisait beaucoup plus, de façon plus fluide. Et ça, ça le met dans un état, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais il se sent agressé par... Voilà. Donc, j'avoue que les mots me manquent. Donc, j'entends bien ce que vous dites, hein. Et c'est, ou alors si je dis, bon, voilà, je suis désespérée, il va me dire, ben, tu parles de toi.
C'est pour ça que je voilà. vous dis de ne pas dire que vous êtes désespérée. Je suis inquiète, voilà, je suis inquiète pour toi. Je suis inquiète pour toi. Moi, j'ai fait ma vie, je poursuis ma vie, mais il ne me semble pas que tu sois un homme heureux et cela m'inquiète beaucoup. Parce que si tu étais heureux, tu aurais plus de souplesse. Nous n'habitons pas la même ville, nous n'habitons pas le même pays, tu ne m'as pas sur le dos, il n'y a pas de conflit majeur. Si tu étais heureux, tu vivrais ta vie, le cas échéant, on se ferait un petit coucou, mais ça ne viendrait pas bousculer ton existence. Pour que tu aies besoin de prendre le temps d'une écriture qui ne fait pas suite à un événement majeur, si ce n'est ce fameux Noël, mais où tout d'un coup, c'est une, comme si c'était déjà trop d'avoir passé une soirée ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et cela m'inquiète pour toi. En fait, il ne faut pas... Parce que, vous voyez, c'est dire « je suis inquiète », mais pas « moi, je suis inquiète et je vais mal », c'est « je suis inquiète pour toi
». Oui, ça, c'est peut-être l'erreur que j'ai faite quand j'ai répondu en disant « je suis choquée ». Il a dû le prendre mal, parce que je crois que c'était un effort d'écrire tout ça. Je ne sais pas ce que vous pensez de quand il me dit « je vais... » Ça y est, j'ai compris, je vais arrêter de te prendre pour quelqu'un que je... Enfin, je ne sais plus comment
dire, mais
une autre personne que ce que je pense, ce que j'aimerais que tu sois. Ou,
Vous pouvez lui répondre, tu sais, on idéalise toujours les autres à l'orée de nos blessures et de nos manquements. Et évidemment que les parents sont toujours décevants parce qu'ils ne sont pas cette idéalisation, mais c'est heureux. Parce que s'ils étaient idéaux, on n'arriverait jamais à la cheville de nos parents. Il faut qu'on les sente un peu idiots, comme disait Ferenczi, qu'on les trouve idiots pour avoir le droit de cheminer, de grandir et d'avoir des projets, de les dépasser. Donc, je fais de mon mieux, j'ai peut-être pas bien fait, je ne suis peut-être pas idéale, je ne suis en tout cas pas ce que tu as idéalisé, mais tu peux aussi faire avec... les gens non idéaux, ce qui te permet de faire toi-même avec toi-même. Parce que sinon, vous comprenez bien que si on rejette les gens qui ne sont pas parfaits, on ne peut pas vivre avec soi parce qu'on ne sait que trop qu'on ne l'est pas soi-même. Voilà, Sylvie.
Mais moi, j'ai l'impression de l'avoir toujours encouragée, félicitée. J'ai toujours été positive et j'ai jamais été contre. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est trop tard. Je n'ai pas dit assez mon avis pour quelque chose. Voilà, enfin, si à part toute la période éducative, bien sûr, où là, c'est bien, là, c'est mal, enfin, bien sûr. Mais après, j'ai toujours été, mais je l'ai toujours encensé, enfin voilà.
Vous voyez, c'est ça aussi, c'est vous l'avez encensé, donc vous aussi, vous lui avez donné une image de lui idéale, parce qu'il n'était pas idéal non plus, il y a des moments où ce n'était pas toujours parfait, ce n'était pas toujours très approprié, et vous ne l'avez pas dit pour le valoriser. Mais du coup, quand il se regarde dans la glace de la vie et des relations sociales, il n'est pas exactement ce que vous lui avez promis de lui-même. Vous savez, c'est un peu l'enfant qui tient une raquette de tennis et on dit qu'il sera un champion. Après, il se confronte au cours de tennis et il voit bien qu'il n'est pas un champion. Il en veut aux parents de lui avoir fait croire qu'il pouvait l'être.
Oui, et ben ça m'éclaire ce que vous me dites parce qu'il m'a dit « En fait, j'ai été gentil pour te faire plaisir ».
C'est ça.
Ou par exemple, il a fait des études très brillantes, enfin assez brillantes. Il me dit, j'ai jamais voulu faire d'études, au fait. Enfin, il détricote tout.
Oui,
il
réécrit les choses, voilà. Bien sûr, mais voilà. Donc vous voyez, vous, il vous idéalise, vous l'idéalisez. Il dit qu'il fait des choses pour vous et pas pour lui. Et là, en ce moment, il est en train d'essayer de se défaire de cette relation qu'il trouve fusionnelle et qui ne colle pas à la réalité qu'il découvre de lui, de vous. Ça se fait avec beaucoup de violence, peut-être un peu téléguidé par ailleurs, avec un peu de manipulation. Contre laquelle il ne se défend peut-être pas suffisamment, mais le but n'est pas d'attaquer pour l'extérieur, c'est de l'aider à s'interroger sur ce qui...
Voilà. Et avec les enfants, les petits-enfants, comment je dois faire? Parce que je fais quelques petits messages sur leur portable respectif. Bon, après, ce sont des jeunes de 12-13 ans... Alors qu'ils me répondent un petit peu poliment, je trouve maintenant, enfin un peu...
Écoutez, je crois qu'il faut que vous restiez toujours sur votre ligne. Vous n'avez pas, vous savez, les enfants à cet âge-là, ils n'ont pas toujours les règles du jeu, de la bienveillance, de la bienséance, de l'expression des émotions. Ils sont pas très, ils savent prendre, peu donner souvent, mais ne vous en offusquez pas. Restez la grand-mère que vous avez envie d'être. Ne cherchez pas plus de liens avec eux pour essayer de compenser les liens que vous n'avez pas avec leur papa. Et puis laissez les enfants en faire l'usage qu'ils voudront. Et s'ils perdent la relation, c'est eux qui se privent d'une partie de la relation. Parce que normalement, évidemment, les enfants, il faut leur faire comprendre que ce n'est pas parce que c'est ma grand-mère qu'il faut que je l'aime. Je ne suis pas obligée de l'aimer. Mais c'est un peu dommage de passer à côté d'une personne qui est un personnage important de ma famille et de ma construction, qu'on le veuille ou non. Et évidemment que s'en priver, c'est se priver d'une partie de son histoire personnelle. Donc vous n'avez pas à faire la morale, mais vous avez à rester dans la droite ligne. Vous ne punissez personne de leurs impossibilités. Vous restez une grand-mère qui souhaite des anniversaires, qui a vu quelque chose qui vous faisait penser à l'un ou à l'autre, et qui du coup le dit, va faire un clin d'œil sur un sujet ou sur un autre, pas de façon plus appuyée ou exagérée maintenant, mais juste pour pouvoir rester à votre... pour que personne ne vous empêche d'être qui vous êtes, une maman et une grand-mère, point. Après, ils sauront en faire eux-mêmes bon usage ou pas, et ça leur appartient. Alors bien sûr, ça vous en prive en partie, mais ça leur appartient parce que ça leur en prive avant tout. Voilà, Sylvie.
D'accord. Merci beaucoup. Hein, merci de votre avis sur cette histoire.
Je vous en prie. Je vous souhaite bon courage.
Un bel été.
Je vous souhaite bon courage parce que, évidemment, c'est extrêmement douloureux et très ingrat.
Oui, effectivement. Oui. Merci beaucoup.
Au revoir, Sylvie.
Au revoir. Bonne soirée.
Bonne soirée.